شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فكما فهمت من طلبكم ترغبون أن نتكلم عن أمر مهم، وهو يتعلق بالتكفير والخروج ونحو ذلك. وهذه القضية، يعني الكلام في هذه النقطة، مبني، بارك الله فيكم، على أنه يجب قبل أن نتكلم عن شيء أن نتصوره. فالقاعدة عند أهل العلم أن الحكم عن الشيء أو على الشيء فرع عن تصوره، وهذه المسألة، أعني مسألة الخوارج والتي خرج منها التكفير، لها جذور قديمة، وتمتد إلى العصر الأول، عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: هم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. ذكر ذلك في فتاويه في المجلد السابع منه، في الصفحة 81 بعد 400. فهم أول من كفر أهل القبلة بالذنب، وبناء على هذا التكفير انتهى كلامه، أقول، وبناء على ذلك استحلوا دماءهم. ولم يكتف الأمر أو يكتفى في أنهم كفروا أهل القبلة بالذنب، بل كفروا بما يرونه هم من الذنوب، يعني وإن لم يكن الأمر ذنبا في حقيقته، بل تخيلوا وتصوروا أن ذلك ذنبا، فأعملوا فيهم هذا الحكم، أي حكم التكفير. وقال رحمه الله في تتمة كلامه: واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. وهذه قضية مهمة، لا بد أن نعلم أن هذه الفرقة وما نشأ عنها في العهد الأول سلكوا مسلكا بعيدا عن السنة كل البعد. فأول ما فعلوا التنفير، تنفير الناس والعامة من أهل العلم، فترتب على ذلك بعد ذلك أن سلكوا مسلك التكفير، ثم ركبوا بعد ذلك، بعد التكفير، إلى التفجير والتقتيل. التقتيل والتفجير والهتك لا يكون ابتداء، إنما هي ثمرة لتنفير ثم تكفير ثم تفجير. نعم، ترجم هذا يا خانة.
شيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى a commencé à dire après khutbatul haja en ce qui suit. Eh bien, comme je l'ai compris de votre demande, vous aimeriez que le discours soit fait au sujet de ce qui concerne at-takfir et al-khuruj et ce genre d'affaires. Et le discours à ce sujet doit obligatoirement être fait à partir d'une bonne appréhension. Parce que al-qa'ida, le principe auprès des gens de science, c'est que le jugement qui est passé sur une chose doit découler d'une correcte appréhension, d'une appréhension correcte de cette chose. Et cette affaire, l'affaire des khawarij, par laquelle est sortie l'affaire du takfir, cette affaire a de très anciennes racines. Des racines qui remontent jusqu'à la première époque, l'époque des Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Et pour cela, et à ce sujet, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyata rahimahullahu ta'ala dit au sujet des Khawarij: Hum awalu man kaffara ahl al-qiblati bil-dhunub. Ce sont les premiers à avoir fait at-takfir des gens de la Qibla. C'est-à-dire, ce sont les premiers à avoir déclaré les musulmans être des mécréants. Bil-dhunub, à cause de péché. Bel bima yarawnahu hum min adh-dhunub, et même par des choses que eux pensent être des péchés. واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. Et ils ont déclaré le sang des gens de la Qibla comme étant halal par cela. C'est-à-dire, ils ont déclaré permis de tuer les musulmans par cela. Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, a mentionné cela dans son livre Majmou' al-Fatawa, la compilation des Fatawa, dans le 7e volume à la page 471. Ainsi, Cheikh Abdullah commente en disant: ainsi, ils ont déclaré les musulmans étant des mécréants à cause de péché. Ensuite, suite à ce tekfir, ils ont déclaré permis de tuer les musulmans. Ils ont déclaré halal le sang des musulmans. Et ils ne se sont pas arrêtés là, c'est-à-dire faire le tekfir en se basant sur des péchés. Mais ils ont fait du tekfir des musulmans en se basant sur des choses que eux pensent être des péchés. Même s'ils ne se sont pas des péchés en réalité, mais suite à une mauvaise appréhension et une imagination de leur part, ils ont cru que ces choses étaient des péchés et ils ont mis alors en application cette règle, la règle du tekfir. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit à la fin de sa description des Khawarij: واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. Ils ont rendu halal le sang des gens de la Qibla par cela, c'est-à-dire permis de tuer les musulmans par cela. Et cette affaire est très importante. Et il est obligatoire pour nous de savoir que les adeptes de cette secte et de ce qui en a résulté lors de la première époque, ces gens ont pris une voie qui est à l'antipode de la voie de la Sunna. Et le premier pas qu'ils ont fait dans cette direction est le fait de séparer la masse populaire des savants. Ensuite, c'est ajouté à cela qu'ils ont commencé à faire le tekfir. Ils ont pris la voie du tekfir, déclaré les musulmans être des mécréants. Et ensuite, ils ont embarqué dans les actions comme les attentats et les assassinats, etc. Ainsi, nous comprenons que les attentats et les assassinats ne sont pas le premier pas de cette voie, mais ils sont le fruit de tout d'abord avoir séparé les gens de leurs savants, ensuite avoir déclaré les musulmans étant des mécréants, et ensuite avoir fait les attentats et les assassinats.
أقول بارك الله فيكم. وبناء على هذا فإن فرقة القوارج هذه يقول عنها شيخ الإسلام أيضا في فتاويه في المجلد الثالث في الصفحة 49 بعد 300: ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. وانتهى كلامه رحمه الله. والخوارج بهذا الفعل كما قلنا بتكفير أهل القبلة أو بتكفير أهل القبلة بما يرونه ذنبا وقد لا يكون ذنبا في حقيقته استحلوا الدماء دماء أهل القبلة. ويقول أيضا شيخ الإسلام في المجلد الثالث في الصفحة 79 بعد 200: والخوارج يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله فلا يقفون. انتهى كلامه. أقول فلا يقفون عند التكفير بل يبنون على ذلك استحلال الدم أي القتل وأيضا سلب المال فيرونه حلال السلب حلال الدم. ولذلك اتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم وعلى ذلك صار الأئمة جميعا وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك فقال في مجلد السابع في الصفحة 83 بعد 400 من الفتاوى قال: فلما شاع في الأمة أمر الخوارج فلما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم وظهرت بدعتهم في العامة. انتهى كلامه. وقال في موطن آخر من نفس المجلد قال: ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. فهؤلاء الخوارج لهم أصول يسيرون عليها من أصولهم وسماتهم التي يسيرون عليها التكفير بالمعصية أو بالمعاصي، ويترتب على هذا التكفير إلحاق من وقع في ذلك من المسلمين بالكفار في أحكامهم وفي دورهم ومعاملاتهم وكذلك قتالهم. وأصل أصول مسألة الخوارج التي بسببها كفر الخوارج الصحابة رضي الله عنهم، يدور هذا النزاع على مسألتين، وهاتان المسألتان تجتمعان في أصل واحد، ألا وهو التكفير بالذنب ولوازمه. يعني محصلة المسألتين ترجع إلى هذا الأصل، أعني التكفير بالذنب ولوازمه. فالمسألتان، المسألة الأولى التحكيم والحكم، فلما اتفق المسلمون على تحكيم الحكمين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من قبل علي رضي الله عنه وعمر بن العاص من قبل معاوية رضي الله عنه، اعترض الخوارج السبئية وأعلنوا ذلك الاعتراض، فقالوا: أتحكمون في دين الله الرجال؟ ثم تلقف هذه الكلمة طوائف من بعض الجهلاء والذين شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه، وقالوا: لا حكم إلا لله. فكان هذا شعارهم الذي فارقوا به الإمام وجماعة المسلمين، وهذا نتج عنه المقولة الأخرى وهي التكفير بالمعاصي، وهي المسألة الثانية عن التكفير. فكفروا عليا ومعاوية والحكمين ومن رضي بحكمهما، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعز: إن الحكم إلا لله. ورتبوا على ذلك جميع لوازم الكفر، والتي منها إسقاط إمامة علي رضي الله عنه لأنه حكم الرجال، ونزعوا البيعة من أعناقهم، وبناء على ذلك كل من رضي بحكم علي وولايته وبحكم الحكمين فإنه كافر. وأمروا على أنفسهم أميرا وبايعوه، وهو عبد الله بن وهب الراسبي، وكان ذلك في العام 37 من الهجرة النبوية، وبذلك بدأ استراق الأمة وظهرت هذه الفرقة بشكل واضح وجلي، وأثرت وأدخنت في الأمة. ولهذا قال شيخ الإسلام ما تقدم نقله: كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. نعم.
Ensuite, en se basant sur ce qui a précédé, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, a dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 3, page 349, et c'est pour cela que le premier groupe ou secte qui s'est séparé de Jama'at al-Muslimin, l'union des musulmans, fut Al-Khawarij al-Mariqoun. Cheikh al-Islam a décrit dans cette phrase Al-Khawarij comme étant Mariqoun, en français, la traduction veut dire apostat ou hérétique. Fin de citation. Et Cheikh al-Islam dit dans un autre endroit: yukaffiruna bil-dhunub, ils font le takfir en se basant sur les péchés, wa yukaffiruna man khalafahum fi bid'atihim, et ils font le takfir de quiconque les contredit dans leur innovation, wa yastahilluna damahu wa malahu, et ils rendent halal son sang ainsi que ses richesses. Ainsi, ils ne s'arrêtent pas au takfir, mais ils déduisent du takfir istihlal ad-dam, le fait de rendre le sang halal, ce qui veut dire l'exécution de la personne. Et ils en déduisent aussi le fait de prendre sa richesse. Et c'est pour cela que les sahaba furent unanimes sur le fait de combattre les khawarij. Et les savants, al-a'imma, les ont suivis dans cette voie. C'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit dans Majmou' al-Fatawa, dans le 7e volume, page 483, lorsque l'affaire des Khawarij s'est répandue dans la communauté musulmane, les Sahaba ont mis en garde contre eux. Et ils ont rapporté les paroles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qui mettent en garde contre eux. Et ils ont clarifié ce qui était dans le Coran comme réfutation de leur innovation. Et ils ont fait apparaître leur innovation, c'est-à-dire clarifier quelle est l'innovation dans laquelle sont tombés les Khawarij. Et Cheikh al-Islam dit plus loin dans le même volume, et c'est pour ça qu'ils furent d'accord sur le fait de les combattre, c'est-à-dire les Sahaba et les savants al-A'imma. Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, dit, les Khawarij ont des principes au sol qu'ils suivent, et ces principes sont tout d'abord al-takfir bil-ma'asi, le fait de faire le takfir à cause de péché. Vient en conséquence de ce takfir le fait que tout musulman qui tombe dans un des péchés sur lesquels les khawarij font takfir, ce musulman est annexé au kuffar, que ce soit dans les règlements de la religion et l'ahkam, ou dans l'habitation, et également dans les relations et les transactions, et fait partie de cela le fait de les combattre. Et la base de tous les principes des Khawarij, tous ces principes qu'ils ont utilisés pour faire le takfir des Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, tous ces principes tournent autour de deux affaires. Et ces deux affaires se rejoignent dans une même affaire. Et cette affaire est le takfir bizanoub, le takfir basé sur les péchés et ce qui en découle. Et ces deux affaires par lesquelles ils ont fait le takfir des Sahaba fut al-tahkim wal-hukm. Al-tahkim, c'est l'arbitrage, c'est-à-dire se référer à une personne pour juger dans une affaire. Al-hukm, le jugement ou la législation, ce sera expliqué au cours de cette cassette. Car lorsque les Sahaba ou les musulmans en général furent d'accord de s'en référer à l'arbitrage des deux arbitres, Abu Musa al-Ash'ari ou Amr ibn al-As, Abu Musa al-Ash'ari de la part d'Ali et Amr ibn al-As de la part de Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, les Khawarij se sont opposés. Ce fut les Khawarij al-Saba'iyya, les Khawarij de Saba. Et ils ont proclamé leur opposition. Et ils ont dit, vous vous en référez à des hommes dans les affaires de la religion d'Allah. Ensuite, cette phrase ou cette parole fut adoptée par différents groupes de gens parmi les ignorants ainsi que ceux qui ont pris part dans l'assassinat de Uthman radiallahu ta'ala anhu. Et ils dirent la hukma illa lillah, le jugement ou la législation appartient à Allah seul. Et cette parole est devenue tel un slogan ou un étendard pour eux. Et c'est par ce slogan qu'ils se sont séparés de leur imam Ali, qui était leur chef. Et ils se sont séparés de Jama'atul Muslimin, l'union des musulmans. Et cette parole a eu comme effet ou comme résultat le takfir bil ma'asi, le takfir basé sur les péchés. Ainsi par cela, ils ont fait le takfir d'Ali, de Muawiyah et des deux juges, Amr ibn al-As et Abu Musa al-Ash'ari. Et ils ont fait le takfir de quiconque est d'accord avec leur jugement. Et ils ont pris comme dalil, preuve, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, in il hukmu illa lillah. Ce qui veut dire, traduction rapprochée, le jugement ou l'arbitrage appartient à Allah seul. Et ils ont déduit de ce takfir tout ce qui découle du kufr. Et parmi cela est le fait qu'ils aient abandonné Ali en tant qu'imam, parce qu'il s'en est référé à des hommes en matière de jugement. Donc ils ont fait naz'ul bay'a min a'naqihim, c'est-à-dire ils ont laissé tomber le pacte d'allégeance al-bay'a qu'ils avaient envers Ali. Et suite à cela, ils ont prétendu que quiconque est satisfait du jugement d'Ali ou de la gouvernance d'Ali ou du jugement des deux arbitres, eh bien cette personne est un kafir. Quiconque est satisfait de ce qui a été mentionné est kafir, mécréant. Ensuite, ils ont choisi un dirigeant parmi eux, et cette personne était Abdullah ibn Wahb al-Rasibi. Et cela s'est passé en l'an 37 de l'Hijra. Et par cela est apparue de manière très claire et nette la division dans la communauté musulmane. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah radiallahu ta'ala anhu a dit, comme nous l'avons mentionné précédemment, et c'est pour cela que la première secte ou le premier groupe parmi les gens de l'innovation à avoir quitté Jama'atul Muslimin, l'union des musulmans, fut Al-Khawarij Al-Mariqoun.
أقول بارك الله فيكم فهذا الذي هم فيه أعني الخوارج الأولين من التضليل وما جرى ذلك من الكلام في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكفيرهم. الكلام فيهم طويل، وبعد ذلك يعني دخل في الخوارج، دخلهم علم الكلام وتأثروا بالجهمية، ومنهم من تأثر بالمعتزلة، ومنهم من تأثر بالأشعرية والماتوريدية وغيرهم. لكن لهم سمات تجمعهم، ولهم مواقف تبين ما هم عليه. وقبل أن أتكلم عن هذا، أود أن أسوق لكم قصة مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالخوارج. بهذا يتبين لنا، بهذه القصة يتبين لنا بعضا من سمات هؤلاء. ومعلوم أن أول النشوء لم يشبه كثير من الانحرافات التي توالت على هذه الفرقة بعد مرور زمن عليها، من دخول المتكلمين ومن دخول الفرق فيهم. فأخرج الإمام أحمد في مسنده، وكذا الحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه الكبرى، واللفظ الذي سأسوقه هو لفظ الحاكم أبو عبد الله، وهو حديث صحيح صححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، والعلامة الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يتكلم مع تلميذه سماك الحنفي أبو زميل، قال ابن عباس: لما خرجت الحرورية، وهم الخوارج، لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دورهم 6000، كان عددهم لما خرجوا 6000 شخص. يقول ابن عباس: أتيت عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر، يعني أخر قليلا صلاة الظهر، وهذا من السنة، وهو راجع إلى ولي الأمر، وقد كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر أو جاء الصيف أبرد بالظهر، يعني أخرها، ما يصليها في أول الوقت حتى تبرد الشمس فيستطيع الناس يعني أن يصلوها من غير حرج، وإذا جاء الشتاء عجل بها في أول وقتها. فقلت يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم يعني أناقشهم. قال يعني علي بن أبي طالب أجاب عبد الله بن عباس قال إني أخاف عليك. قلت كلا يعني لا تخف علي. هنا نقف وقفة، وهو لا ينبغي مناظرة أهل البدع لكل أحد. الواجب إذا أراد إذا يعني أريدت المناظرة هذه أن يكون المناظر من أهل العلم الراسخين فيه، هذا أولا. ثانيا أن يكون بعد إذن ولي الأمر. ثالثا أن لا تكون في هذه المناظرة تشويشا على العامة، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في هذا الباب. قال إني أخاف عليك. لماذا خاف علي، لماذا خاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابن عباس؟ يخاف عليه منهم لأنهم يستحلون الدم، لأنهم يستحلون الدم، أي خاف عليه أن يقتلوه. قلت كلا أي لا تخف. قال ابن عباس فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن، لباس يلبسه فيه يعني شيء من الجمال ونحو ذلك. قال أبو زميل الراوي عن ابن عباس وهو سماك الحنفي، قال أبو زميل كان ابن عباس جميلا جهيرا، جميل يعني الشكل والمنظر بما خلقه الله عليه، وجهيرا جهوري الصوت. قال ابن عباس فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون، قائلون يعني وقت القيلولة، والقيلولة هي تكون بعد نصف النهار أو عند منتصف النهار كما قاله النووي وغيره. قال فسلمت عليهم يعني ألقى ابن عباس عليهم السلام، فقال السلام عليكم يعني سلم عليهم. فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، يعني هذا يدلك على أنهم لا يرون ابن عباس من أهل السلام، بل يرونه حلال الدم كافر لا يرد عليه السلام. فلما سلم عليهم ما أجابوا السلام، وهم بهذا مخالفون لنص الآية أو من قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا يدلك بارك الله فيك على أن من سمات هؤلاء الخوارج الجهل، كما سيأتي معنا إن شاء الله إن بقي في الوقت متسع لذكر جملة من سماتهم. فهم جهلاء، وهم جهلاء في كل مكان، في كل عصر وفي كل مصر، وإن تلبسوا بالعلم زورا وبهتان فليسوا من أهله، إنما يتبعون ما تشابه منه. قال فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما ردوا عليه السلام لما تقدم. فما هذه الحلة، أي ما هذا اللباس الذي تلبسه هذا اللباس الحسن؟ هذا السؤال يريدون به أن يظهروا لأتباعهم أن هؤلاء أي الصحابة قد اشتغلوا بالدنيا عن الآخرة وزهدوا في الآخرة ورغبوا عن الآخرة ورغبوا في الدنيا. قال أي ابن عباس قلت ما تعيبون علي، ما هذا الذي تنقمون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن ما يكون من الحلل. ونزلت قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تعمد لبس تلك الحلة لأنه يعلم من حالهم الجهل وأنهم سينقمون عليه ذلك، فرد عليهم بالسنة وبالكتاب. وهذا يفيد كما عليه السلف وأهل السنة من أهل العلم أنهم غير جهلاء وإنما أهل علم يحكمون ويحكمون الكتاب والسنة في أقوالهم وأفعالهم. قال ما تعيبون علي، لماذا تعيبون علي، ما هذا الذي تنقمون؟ لقد رأيت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون من الحلل، من أجمل ما يكون، لبسها ونزلت يعني على رسول الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فلما حاجهم بهذه الآية وبتلك السنة قالوا فما جاء بك، لماذا جئت؟ نعم ترجم هذا القدر بارك الله فيك.
Cette voix des Khawarij de la première génération et l'égarement dans lequel ils se sont trouvés du fait que ils ont critiqué les Sahaba et ils ont fait le takfir des Sahaba. Les explications au sujet de cette première secte ou la première génération de cette secte sont très très longues. Et suite à cette après cette première génération, d'autres fléaux se sont abattus sur cette secte parmi l'innovation, comme ilm al-kalam, la philosophie, et certains ont été affectés par al-jahmiya, la bid'ah al-jahmiya, et d'autres par al-ash'ariya, et d'autres par al-mu'tazila et al-maturidiya, et autres que cela parmi les innovations. Cependant, il y a des caractéristiques qui sont communes à tous les groupes d'al-khawarij, à toutes les générations. Et ces caractéristiques éclaircissent quelle est cette voie qui est propre au khawarij. Et avant de commencer à vous expliquer cela, j'aimerais vous narrer l'histoire du débat qui a eu lieu entre les Khawarij et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbas, qui est le cousin du messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car par cette histoire, beaucoup de caractéristiques des Khawarij s'éclaircissent. Et comme nous l'avons mentionné, la première génération des Khawarij, qui est la génération de laquelle nous allons parler maintenant, ne fut pas encore affectée par ces fléaux qui se sont abattus sur cette secte au fil des siècles par la suite. Et l'histoire fut rapportée par l'imam Ahmed dans son livre Al-Musnad, ainsi qu'Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak, ainsi qu'Al-Bayhaqi dans son livre Al-Sunan al-Kubara. Et la narration que je vais vous raconter est celle qui fut rapportée par Al-Hakim Abu Abdillah. Et c'est un hadith qui est authentique. Al-Hafidh ibn Kathir l'a déclaré être authentique dans son livre Al-Bidayat wa Al-Nihaya, ainsi qu'Al-Alamat al-Imam al-Albani, qui l'a déclaré authentique dans son livre Al-Irwa. Et cette histoire est une conversation qui a eu lieu entre Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, et son élève qui est Simakun al-Hanafi Abu Zumail. Abdullah ibn Abbas dit: au moment où Al-Haruriya est sorti, et Al-Haruriya ce sont les Khawarij, ils se sont rassemblés dans leur camp ou dans leur quartier et ils furent 6000, yani 6000 personnes. Je suis venu à Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu et j'ai dit: Ya Amir al-Mu'minin, ô chef des croyants, abrid bil-dhuhr. Abrid bil-dhuhr, ça veut dire littéralement refroidis salat al-dhuhr. Et Cheikh Abdullah explique en disant: ça veut dire retarde un peu salat al-dhuhr. Et cette action fait partie de la sunna et c'est une chose qui en revient au chef des musulmans, Wali al-Amr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la chaleur fut très intense durant les jours d'été, il retardait salat al-dhuhr afin que le climat se refroidisse un petit peu. Ainsi les gens pouvaient prier salat al-dhuhr avec moins de difficultés. Et lorsque vinrent les jours d'hiver, il priait salat al-dhuhr au début de la rentrée de l'heure de dhuhr. Abdullah ibn Abbas dit: abrid bil-dhuhr, afin que je puisse aller voir ces gens et leur parler, yani débattre avec eux. Ainsi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu dit: inni akhafu alayka, certes j'ai peur pour toi. Abdullah ibn Abbas répondit en disant: kalla, n'aie pas peur pour moi. Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, dit: nous nous arrêtons ici un instant afin de tirer quelques leçons de ce qui a précédé. La première leçon est que tout d'abord, le fait d'aller débattre avec les gens de l'innovation est une chose qui n'est pas permise à tout un chacun. Mais ce qui est obligatoire est que la personne qui va débattre avec les gens de l'innovation soit une personne de science. Ar-rasikhuna fil ilm, des gens qui sont fermement enracinés dans la science. Deuxièmement, que ce débat doit avoir lieu après l'autorisation de Wali ul-Amr, le chef des musulmans. Troisièmement, que il faut faire attention que ce débat n'entraîne pas la confusion auprès de la population. Et les savants ont mentionné encore d'autres leçons à tirer de cela, mais nous mentionnerons ces trois leçons pour l'instant. Revenons-en à l'histoire. Ali dit, certes.
قالوا فما جاء بك يقولون ابن عباس رضي الله عنهما قلت أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم. طبعا ابن عباس رضي الله عنهما بقوله أتيتكم من عندي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار هو يريد أن يقيم الحجة عليهم وأن يثبت أنهم لا زالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا كما يقوله الخوارج الذين كفروهم. فهو يثبت لهم الصحبة وأن منهم مهاجرين ومنهم الأنصار. ثم يبين قال فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم, وهذا يعني أن القرآن لم ينزل فيكم وإنما نزل فيهم وعليهم, نزل القرآن عليهم, وكذلك هم أعلم بالوحي منكم, هذا يدل على أنكم جهلاء بهذا الوحي. وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل أي القرآن, فهم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل, وهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وقرت أعينهم برؤيته, وهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما أمره الله عز وجل به, وهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي كما جاء في الصحيحين عند البخاري وغيره, وهم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح خذوا عني مناسككم. قال وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد, ليس فيكم في الستة آلاف ليس معهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, لم يكن معهم أحد من الصحابة, ولو كان معهم أحد منهم لجاز أن يقال لعلهم شبه لهم أو لعل عندهم شيء من التأويل أو عندهم شبهة أو احتجوا بأن معنا فلان من أصحاب رسول الله أو كذا. فهذا يدلك على أن الخوارج لا يمكن ولم يكن معهم في يوم من الأيام أحد من أهل العلم, من أهل العلم بالسنة, يكون معهم مرتزقة متفلسفة متحذلقة, يوجد يكون معهم من يشبه عليهم الحق بالباطل فيظن الجهلاء أن هؤلاء من أهل العلم وفي الحقيقة ليسوا كذلك. فما كان في يوم من الأيام مع الخوارج أحد من أهل العلم, قد يكون بعض الناس تأثر بهذه الفتنة أي فتنة الخوارج, ولو وجد أن أحدا من أهل العلم قد وقع منه شيء من ذلك نجد أن العلماء أهل السنة ينكرون عليه ويذكرون ذلك فيما أخذ عليه. قال وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم بعد أن سمعوا هذه الحجج، قال بعضهم من الجالسين قال لا تخاصموا قرشيا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. تأمل معي بارك الله فيك إلى في هذه العبارة، لما سمع هؤلاء هذه الحجج أو بعض هذه الحجج من عدن وهو لم يبدأ معهم بعد في المناقشة، خاف هذا الرجل أو خاف هذا البعض على أصحابه من أن يتركوا ما هم عليه مما ذا من ضلال، فقال لا تخاصموا قرشيا، وعبد الله بن عباس من القرشيين، فأراد أن يقطع صلة الناس بأهل العلم من أهل السنة، وهذا هو ديدن أهل البدع جميعا في كل عصر وفي كل مصر وفي كل مصر حتى يومنا هذا، هذا ديدنهم وهذا دابهم في كل مكان، قطع صلة العامة بأهل العلم من أهل السنة، لأنهم يعلمون أن أهل العلم يردون هذا الباطل بما أتاهم الله من الحق، فهم خشية على الأتباع وخشية فراق الناس يقطعون الصلة فيأتون بمثل هذه الألفاظ، مرة يقولون فيهم كما قال ابن عباس لا تخاصموا قرشيا هؤلاء الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. وهذا يذكرني بما قاله عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما خرجه البخاري في الصحيح في كتاب استتابة المرتدين، كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما عن الخوارج يراهم شرار الخلق، وقال انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. يقول انطلقوا أي انطلق الخوارج إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، وهذا من فرط جهلهم، وهذه الآية منها، نزلوا قول الله عز وجل بل هم قوم خصمون في عبد الله بن عباس الحق رضي الله عنهما، وما أرادوا بذلك إلا قطع صلة الناس بهذا العالم الرباني. ولا بد أن تتأملوا أنهم لما نفروا من ابن عباس استدلوا بالقرآن، وانتبه إلى هذا، فليس كل مستدل يستدل بالآيات والأحاديث يكون محقا، فالخوارج يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهذا عبد الله بن عمر يثبت أنهم ينتزعون من القرآن، قال انطلقوا إلى آيات نزلت، يعني يأتون إلى آيات في القرآن الكريم فينزلونها، هي في الكفار ينزلونها على المؤمنين، وهكذا هذا فعل، ولا زالوا إلى يومنا هذا يتوالى بعضهم على بعض بالتحذير والتنفير من أهل العلم من أهل السنة. وما أكثر هذه الألفاظ ولها أوجه كثيرة، ومن أواخرها عملاء وأنهم يفتون لسلاطينهم وغير ذلك من الألفاظ الخبيثة، وهي وإن اختلفت الصيغ صيغ الاستخدام إلا أن المرد واحد، فهو كما قيل هذه الأقوال هي أوجه لعملة واحدة. الشاهد بارك الله فيكم، فيقول قال بعضهم لا تخاصموا قرشيا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون، قال ابن عباس وأتيت قوما يصف هؤلاء الذين أتاهم والذين جاءهم يصفهم الآن. أتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، يعني كانوا مجتهدين جدا في التعبد والصيام والصلاة والقيام والتنسك، مسهمة وجوههم يعني من شدة السهر ظاهر على وجوههم الإعياء وطول القيام في الليل. قال كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم، يشبه ابن عباس رضي الله عنه اجتهاد هؤلاء في السهر والصلاة والتعبد أنها قد أثرت تلك السجدات في الأرض على جباههم وعلى أيديهم وعلى ركبهم. قال فمضى من حضر منهم، وهذا وصف لابن عباس سابق سبق به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حيث قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي لفظ يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه أو إليه. قال ابن عباس فمضى من حضر، يعني من الناس من استمع على نصيحة ذلك الفاك في التحذير من الجلوس لابن عباس، مضى ذهب جماعة منهم. وقال بعضهم لنكلمنه، منهم من كان يبحث عن الحق قال نجلس نريد أن نعلم ما عند هذا ولننظرن ما يقول. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قلت أخبروني ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار، ما الذي تنقمونه وماذا تأخذون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عليا أمير المؤمنين وصهره زوج ابنته والمهاجرين والأنصار، يعني الصحابة الذين تكفرونهم. قالوا ثلاثا، يعني ننقم عليهم ثلاث مسائل أو ثلاث أمور. قالوا قلت ما هن، يعني أخبروني ما هذه الثلاث مسائل. نعم ترجم هذا بارك الله فيك.
Il dit qu'est-ce qui t'a amené ici. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu m'a répondu: je suis venu à vous de la part des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam parmi les muhajirina et les ansar afin de vous transmettre ce qu'ils disent, car le Coran est descendu sur eux, ainsi ils sont plus savants que vous en matière de révélation. Cheikh commente en disant: certes Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, par sa parole je suis venu à vous de la part des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les muhajirina wal ansar. Abdullah ibn Abbas veut par cela mettre la preuve contre les khawarij, car il affirme que ces gens contre qui ils se sont opposés sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce que prétendent les khawarij qui ont fait le takfir de eux, qui ont déclaré que ces gens étaient des kuffars. Ainsi Abdullah ibn Abbas témoigne du fait qu'ils sont des compagnons du prophète et qu'ils sont al-muhajirin, ceux qui ont fait al-hijra, l'hijr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi eux il y a al-ansar, ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur leur terre et ils ont accueilli les muhajirin. Ensuite il dit: le Coran est descendu sur eux, c'est-à-dire qu'ils ont été témoins de la révélation, et à cause de cela ils sont plus savants au sujet de cette révélation que les khawarij, car le Coran n'est pas descendu sur les khawarij. Et Abdullah ibn Abbas par ses paroles veut montrer aux khawarij qu'ils sont ignorants concernant cette révélation, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam furent témoins de la descente du Coran, et ils ont vu de leurs propres yeux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont apaisés par sa vision, et ils l'ont vu mettre en application ce qu'Allah lui a ordonné de faire dans le Coran, comment il le mettait en application. Et ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: priez comme vous m'avez vu prier, et aussi prenez de moi vos rituels du Hajj et autres que cela. Suite à ça, Abdullah ibn Abbas dit: wa laysa fikum minhum ahadun, et aucun d'entre eux n'est parmi vous. Cheikh commente en disant: parmi 6000 khawarij, il n'y avait pas un seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tel avait été le cas, s'il y avait eu parmi eux ne serait-ce qu'un seul compagnon du prophète, on aurait pu dire qu'une confusion s'était installée, ou qu'il y a une divergence dans l'interprétation de certaines affaires, ou que les khawarij auraient pu dire qu'il y a avec nous un tel des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça aurait été une preuve pour eux. Mais cela ne fut pas le cas. Et cela te montre que les khawarij, au fil de l'histoire, il n'y a jamais eu avec eux qui que ce soit des gens de science, des gens de science de la sunna. Tu trouves parmi eux des gens qui essaient de gagner leur pain en se faisant passer pour des savants. Tu trouves parmi eux les philosophes et autres que cela. Et surtout, tu trouves parmi eux les gens qui essayent de faire passer le faux pour le vrai et font passer le vrai pour le faux. Et ensuite, les ignorants pensent que ces gens-là sont les gens de science. Et si on a vu au cours de l'histoire que certains individus parmi les savants ont été affectés par certaines affaires de Khawarij ou sont tombés dans certaines affaires de la fitna des Khawarij, on voit que les savants de la même époque ont reproché cela à ce savant et ont désapprouvé sa position. Et ils ont mentionné la position de ce savant dans ce qui lui fut reproché et ont clarifié son erreur. Ainsi, les Khawarij, lorsque Abdullah ibn Abbas a commencé à débattre avec eux de cette manière, un d'entre eux a dit: la tukhasimu Qurashiyan, fa inna Allah yaqul bal hum qawmun khasimun. Ne débattez pas avec les gens de Quraysh, car Allah a dit bal hum qawmun khasimun. Mais c'est un peuple qui aime la polémique. Cheikh commente en disant: médite barakallahu fik sur cette phrase. Lorsque les Khawarij ont entendu les preuves qu'Abdullah ibn Abbas leur a apportées au début de son débat avec eux, cette personne a eu peur pour ses adeptes, a eu peur que ses adeptes quittent l'égarement dans lequel ils se trouvaient. Ainsi, il dit: la tukhasimu Qurashiyan, ne débattez pas avec les gens de Quraysh. Et Abdullah ibn Abbas fait partie des gens de Quraysh. Et cette personne a voulu par cette phrase couper le lien qu'il y a entre les savants et les gens. Couper le lien entre les gens et les savants de la sunna. Et cela fait partie des habitudes des gens de l'innovation, à tout temps et à tout endroit. Ils veulent couper les gens de leurs savants parce qu'ils savent très bien que les savants clarifient l'égarement dans lesquels ils sont tombés et clarifient les fausses idées qu'ils ont introduites dans la religion. Ils font cela parce que Allah leur a donné comme science. Ainsi, de peur que leurs adeptes les quittent, ils coupent le lien qu'il y a entre eux et les savants. Et pour ce faire, ils disent ce genre de phrases. Comme ils ont dit à Abdullah ibn Abbas: la tukhasimu Qurashiyan fa inna Allah yaqul bal hum qawmun khasimun. Et Cheikh commente en disant: cela me rappelle la parole d'Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, qui fut rapportée dans Sahih al-Bukhari dans le livre Kitabatu Istitabat al-Murtaddin, le livre sur le fait de demander la repentance aux apostats. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma considérait les Khawarij comme étant les pires de la création. Il dit: ces gens-là aller vers les versets du Coran qui étaient descendus sur les kuffars et ensuite ils les mettaient en application sur les croyants. Et Cheikh dit: cela fait partie de leur ignorance exagérée. Et cette ayah, ce verset dont nous parlons en ce moment, fait partie de ce genre de choses. Balhum qawmun khasimun, ils ont dit ça au sujet d'Abdullah ibn Abbas, qui leur est venu avec la vérité, radiallahu ta'ala anhumah. Et le seul but qu'ils avaient en disant cela est de couper le lien qu'il y avait entre les gens et ce savant Rabbani. Et Cheikh dit, prête très attention et médite sur le fait que lorsqu'ils ont essayé de mettre les gens en fuite d'Abdullah ibn Abbas, ils ont pris pour preuve comme dalil de leur position un verset du Coran. Fais très attention à cela, car cela te prouve que la personne qui vient, même si elle a un dalil du Coran ou de la Sunna, un verset du Coran ou un hadith de la Sunna, cela ne prouve pas que sa position est légitime. Car les Khawarij, comme le dit Cheikh, يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ إِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ce qui est pris de la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 7 de Surat Ali Imran, la troisième surat du Coran, comme a été mentionné plus tôt. La traduction du sens du verset est: ils mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Ainsi, nous voyons que Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, a affirmé que les Khawarij prennent des versets du Coran et ils les mettent en application, yani des versets du Coran qui sont descendus sur des kuffars, et ils les mettent en application sur les croyants. Et cela reste, cette action est toujours présente chez les Khawarij jusqu'à nos jours. Ils s'allient les uns les autres afin de mettre les gens en garde contre les gens de science et de faire fuir les gens des savants, les savants de la Sunna. Ainsi, ils viennent avec différentes phrases, et ces phrases sont nombreuses aujourd'hui. Parmi ce qu'on raconte, c'est que les savants sont des agents du gouvernement ou que ce sont des gens qui donnent la fatwa pour leur gouvernement, etc., etc. Et même si les formes ou la formulation change, le but en reste une même chose. Comme le Cheikh dit, comme on dit en arabe, ce sont différentes faces d'une même monnaie. Ensuite, Abdullah ibn Abbas dit, en décrivant les Khawarij, il dit: je suis venu à ces gens et je n'ai jamais vu des gens plus assidus que eux. Cheikh commente en disant: yani, ces gens étaient extrêmement assidus en matière d'adoration, en matière de jeûne, en matière de prière, et aussi qiyamul layl, la prière de la nuit. Abdullah ibn Abbas dit: leur visage était épuisé, abattu. Cheikh dit: cela est parce qu'ils restaient de longs moments en prière la nuit et ne dormaient que très très peu. Abdullah ibn Abbas dit: on aurait dit que leurs mains ressemblaient aux genoux des moutons. Cheikh commente en disant: Abdullah ibn Abbas veut dire par là que leurs mains ressemblaient aux genoux des moutons parce que, à force de rester en prosternation et à force de rester debout longtemps la nuit, etc., le contact avec le sol a fait que la corne s'est formée sur leurs mains et sur leur front et sur leurs genoux, à tel point que leur peau ressemblait à la peau qu'il y a sur le genou des moutons. Et cette description qu'Abdullah ibn Abbas a donnée a déjà été mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il fut rapporté par voie authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prédit la sortie des Khawarij, il les a décrits en disant: vous mépriserez votre prière à côté de leur prière, et vous mépriserez votre lecture du Coran à côté de leur lecture, et vous mépriserez votre adoration à côté de leur adoration. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. Ils sortiront de la religion comme, ou ils quitteront la religion comme la flèche quitte l'arc. Et dans une autre version du hadith, يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ أَوْ فِيهِ. Et dans une autre version, il dit: ils sortent de la religion et puis ils n'y retourneront pas. Abdullah ibn Abbas dit, après que cette personne ait dit cette phrase, لَا تُخَاسِمُ قُرَشِيًا, ainsi un groupe parmi eux qui a pris la mise en garde contre Abdullah ibn Abbas s'est levé et est parti. Yani, un certain nombre parmi ceux qui étaient assis, parmi les Khawarij, ont accepté la parole de cette personne qui a dit « La tukhasimu Qurashiyan » et ont refusé d'écouter ce qu'Abdullah ibn Abbas a dit. Ainsi, ils se sont levés et ils sont partis. Et d'autres ont dit, d'autres ont refusé de partir. Et ils ont dit « Certes, nous lui parlerons. Et nous verrons ce qu'il a à dire. Et nous débattrons avec lui. » Car ces gens-là étaient à la recherche de la vérité. Ainsi, Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma a dit « Informez-moi, quelles sont les choses que vous reprochez à Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son gendre? Et qu'est-ce que vous reprochez aux muhajirines et qu'est-ce que vous reprochez aux ansar ?» Ils répondirent « Nous leur reprochons trois choses. » Abdullah ibn Abbas dit « Et quelles sont ces trois choses ?»
أقول بارك الله فيكم الوقت عندنا قرب الآن وأذن أذان العشاء ولعلي أنا أنجز تتمة الحوار حوار ابن عباس ونرجع الكلام إن شاء الله في لقاء آخر طيب
إن شاء الله
أقول قلت يقول ابن عباس قلت وما هن ما هن هذه الثلاث المسائل قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم يعني إنه حكم الرجال كما تقدم في مسألة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما واستدلوا بتكفيرهم بقول الله جل وعز إن الحكم إلا لله فقلت هذه واحدة قالوا أما الأخرى فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم يعني أن عليا قاتل لم قاتل ولم يسبي ولم يغنم يعني لم يأخذ السبي ولم يأخذ الغنائم فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم قلت هذه اثنتان فما الثالثة قال إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير أمير للكافرين قلت أعندكم سوى هذه هل عندكم شيء آخر قالوا حسبنا هذا ما عندنا شيء آخر فقلت يا ابن عباس يجيبهم الآن جاء سمع حجتهم أو سمع ما عندهم من حجج أو شبه فأجابهم بقوله أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يرد به قولكم أترضون يعني لو جئتكم بالنصوص من الكتاب والسنة ما يرد هذا القول ويدفعه ويبين بطلانه أترضون قالوا نعم ليس لهم خيار آخر إلا أن يقولوا نعم لأنهم لو قالوا لا لكفروا فقلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال أنا سآتيكم بآية مما رد حكمه إلى الرجال يعني رد الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد قال الله جل وعز يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فنشدتكم الله والشاهد من قول منه قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم أي من الرجال يقول ابن عباس لهم نشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم يعني أيهما أفضل في حكم الأرنب أو نحو ذلك أو في صلاح ذات البين أيهما أهم قال وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لحكم يعني لحكم حتى في هذا الأرنب ولم يصير ذلك إلى الرجال لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ثم استدل لهم بآية أخرى قال وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما قال ابن عباس فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة، سنة مأمونة. أخرجت من هذه يعني أجبتكم عن هذه، لأنهم قالوا حكم الرجال وما للرجال وللحكم، والله يقول إن الحكم إلا لله، فأنا جئتكم بما يرد قولكم من الآيات الدالة الصريحة الواضحة من كتاب الله. فهل أجبتكم على هذه، على هذه الشبهة أن حكم الرجال ليس على الدوام مرفوض، بل هي سنة مأمونة بنص القرآن؟ أخرجت عن هذه؟ أجبتكم عن هذه؟ قالوا نعم. قال أما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، لما قاتل علي رضي الله عنه قاتل في القتال الذي حصل والفتنة التي حصلت بينه وبين بعض الصحابة، كان معهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في معركة الجمل، قال قاتل ولم، قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة؟ تسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ يعني لإن كانت سبيا صارت من الجواري يصح وتكون عبدة، ولها أحكام مقررة في الشرع كثيرة من أحكام الرق. قال أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها، فلئن فعلتم لقد كفرتم، يعني لئن فعلتم هذا، لئن فعلتم هذا يعني استحلالكم منها ما يستحل من غيرها لقد كفرتم، ولئن قلتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم. فإن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم تدورون بين ضلالتين، يعني إن قلتم أنها تسبى هذا ضلال، إن قلتم ليست أمنا هذا ضلال، كلاهما ضلال. قال لئن قلتم، فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم؟ صرتم إلى ضلالة. فقال، قال ابن عباس قال فنظر بعضهم إلى بعض، بدأ كل منهم ينظر إلى آخر ذهولا من هذا الجواب السني. قلت أخرجت من هذه؟ يعني أجبتكم عن هذه؟ قالوا نعم. أما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم، قد سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، يعني أتاهم بالسنة الآن أن الرسول لما صالح صلح الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين، كان إذ ذاك الكاتب كاتب الصلح علي، اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. قال المشركون لا والله ما نعلم إنك رسول الله، يعني ما احنا لا نوافقك على أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي هذا ما اطلع عليه محمد بن عبد الله، يعني محى رسول الله لفظة ماذا رسول الله، محى النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللفظة من الكتابة، وقال بدلا منها محمد بن عبد الله. يقول ابن عباس فوالله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه ذلك من النبوة حين محى نفسه. أجابهم حتى عن الثالثة بالسنة. قال عبد الله بن عباس في آخر الحديث فرجع من القوم 2000، كانوا 6000، رجع منهم 2000، رجع من القوم 2000، وهذا يدلك على أن الثلث كان قد شبه عليه ولبس عليه، ظنوا أن أولئك على الحق بهذا التكفير وهذا التقتيل، ولكن لما بين لهم الحجة أراد الله بهم خيرا فرجعوا عن الضلال الذي هم فيه. قال ابن عباس فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة، انتهى الحديث. قتل 4000 على ضلالة، أي ضلالة هذه؟ ضلالة الخروج، ضلالة الخروج التي وقعوا فيها. فهذا ابن عباس يحكم عليهم بأنهم ضلال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، يعني الخوارج. فبهذا يتبين لنا بارك الله فيكم أنه من تصر ابن عباس على هؤلاء بالهوى ولا بالجهل، إنما انتصر عليهم بسيف السنة والعلم، بسيف السنة والعلم. ومن أراد أن يسلك مسلكا ينجو به فليسلك مسلك من سلف. وما ذر قرن البدع في وقت من الأوقات ولا في مصر من الأمصار فعلاه سيف السنة والعلم إلا قطعه، لأنهم كما ترون أهل جهل وهوى، أهل جهل وهوى. فالعلم هو سلاح هذا الجهل وقاتله. أقف عند هذا القدر بارك الله فيكم وأستميحكم، لأنه قد قامت الصلاة الآن، تقام الصلاة بعد 3 دقائق من الآن، ولعلنا يعني نعاود في لقاء آخر نشرح لكم شيئا من التفصيل حول هذه القضية. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
عبد الله بن عباس دي Que sont-elles, yani ces trois affaires que vous reprochez à Ali radiallahu ta'ala anhu? Ils dirent: la première est le fait qu'il a pris en tant qu'arbitre des hommes dans l'affaire d'Allah. Et Allah dit: inni al-hukmu illa lillah. Yani, le jugement et l'arbitration n'appartiennent qu'à Allah seul. Wa ma lil-rijali wa ma lil-hukm. Ainsi, les hommes n'ont rien à voir dans les affaires de jugement et d'arbitration. Yani, c'est-à-dire lorsque Ali radiallahu ta'ala anhu a pris en tant qu'arbitre Amr ibn al-As wa Abu Musa al-Ash'ari dans l'affaire qui s'est passée entre Ali et Muawiya radiallahu ta'ala anil jami'. Les Khawarij ont reproché à Ali cela, et ils ont pris comme preuve pour leur position la parole d'Allah Azza wa Jal: inni al-hukmu illa lillah. Certes, l'arbitration et le jugement n'appartiennent qu'à Allah seul. Abdullah ibn Abbas dit: ceci est la première. Ils dirent: la suivante et le fait qu'il ait combattu et il n'a pas pris le butin de la guerre et il n'a pas pris les prisonniers en esclaves. Si ceux qu'il avait combattus étaient des kuffars, des mécréants, certes, il aurait pu prendre le butin et prendre les prisonniers en esclaves. Et s'ils étaient des croyants, ce n'était pas permis pour lui de les combattre en premier lieu. Abdullah ibn Abbas dit: ceci est la deuxième. Quelle est donc la troisième? Ils dirent: la troisième est le fait qu'il ait effacé son nom ou son titre de Amir al-Mu'minin, chef des croyants. Ainsi, il est donc Amir al-Kafirin, un chef pour les mécréants. Abdullah ibn Abbas répondit en disant: avez-vous autre chose que cela? Ils répondirent: Hasbuna hada, cela nous suffit. Yani, nous n'avons pas d'autre argument. Abdullah ibn Abbas leur répondit après avoir entendu ces arguments de leur part en disant: voyez-vous, si je vous récite du livre d'Allah et de la sunna de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui réfutent votre parole, serez-vous satisfait? Yani, si je vous apporte les textes clairs du Coran et de la sunna qui réfutent votre parole et qui clarifient votre mauvaise compréhension, serez-vous satisfait de cela? Ils dirent oui. Et ils n'avaient pas d'autre alternative que de dire oui, car s'ils avaient dit non, ils auraient mécru. Abdullah ibn Abbas dit: votre parole, hakama al-rijal fi amrillah, il s'en est référé à l'arbitrage des hommes dans l'affaire d'Allah. Eh bien, moi je vais lire pour vous les versets d'une affaire parmi les affaires dont Allah a renvoyé le jugement aux hommes. Et cela pour une affaire dont la valeur atteint un quart de dirham, tel un lapin ou gibier de même taille. Ou autre gibier de même taille. Allah dit dans le Coran: ô vous qui croyez, ne tuez pas le gibier pendant que vous êtes en état de ihram. Quiconque parmi vous le tue en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau, semblable à ce qu'il a tué, d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba. Verset 95 de Surat al-Ma'idah, la 5e surat du Coran. Abdullah ibn Abbas dit, suite à après avoir lu ce verset, « Je vous demande par Allah, est-ce que le jugement d'homme pour une affaire qui atteint la valeur d'un lapin, cela est-il plus important ou le jugement qui concerne le fait de préserver le sang des musulmans et d'amener la réconciliation entre les gens ?» Et vous savez très bien que si Allah avait voulu, l'avait voulu, il aurait jugé lui-même dans cette affaire, yani l'affaire du lapin. Et il ne s'en aurait pas remis, il n'aurait pas remis cette affaire entre les mains des hommes. Car Allah est capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, leur mentionnait un deuxième verset. Il dit, et dans l'affaire de la femme et de son époux, ou en ce qui concerne l'affaire de la femme et son époux, Allah Azza wa Jal dit, si vous craignez le désaccord entre les deux époux, alors envoyez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Abdullah ibn Abbas dit suite à cela, فَجَعَلَ اللَّهُ حُكْمَ الرِّجَالِ سُنَّةً مَأْمُونَ. Ainsi, Allah a fait de l'arbitrage des hommes سُنَّةً مَأْمُونَ, yani une voie saine et sûre. أَخَرَجْتُمْ مِنْ هَذِهِ. Êtes-vous sorti de celle-ci, yani après que je vous ai répondu à votre parole, qui fut basée sur la parole d'Allah, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Je vous ai répondu à votre compréhension par des versets clairs qui ne prêtent pas à équivoque du livre d'Allah. Ainsi, êtes-vous sorti de cette position? Ils dirent oui. Ensuite, Abdullah ibn Abbas dit, votre parole, il a combattu et il n'a pas pris les prisonniers en tant qu'esclaves, ni le butin de la guerre, c'est-à-dire lorsque Ali a combattu radiallahu ta'ala anhu dans la fitna qui a eu lieu entre les sahaba à cette époque, lorsque la mère des croyants, Ummul Mu'minin Aisha, était dans le camp adverse de Ali lors de ce qui fut appelé la bataille du chameau. Abdullah ibn Abbas dit, vous dites qu'il a combattu et il n'a pas pris les prisonniers en tant qu'esclaves, ni le butin de la guerre. Prendrez-vous donc votre mère Aisha en tant qu'esclave, et ensuite vous déclarerez halal sur elle, yani permis sur elle, ce qui est déclaré halal sur autre que elle. Si vous faites cela, vous avez certes mécru, laqad kafartum. Et si vous dites, elle n'est pas notre mère, laqad kafartum, vous avez certes mécru. Car certes, Allah dit dans le Coran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, wa azwajuhu ummahatuhum. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Abdullah ibn Abbas dit après cela, Fa'antum tadouruna bayna dalalataini. Ainsi, à partir de votre position, vous basculez entre deux égarements. Ou bien vous dites que vous la prendrez en otage, en tant qu'esclave, et cela est égarement. Ou alors vous dites qu'elle n'est pas votre mère, et cela est égarement. Abdullah ibn Abbas dit, ainsi ils se sont regardés les uns les autres, yarni par stupéfaction suite à cette réponse. Abdullah ibn Abbas dit, êtes-vous sorti de celle-là? Ils dirent oui. Abdullah ibn Abbas dit ensuite, ensuite, votre parole, il a effacé son titre d'Amirul Mu'minin, le chef des croyants. Eh bien, je vais vous parler de quelqu'un de qui vous serez satisfait. Vous avez certes entendu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Hudaybiyah, a fait un accord de paix avec les kuffars de Quraysh, les polythéistes de l'époque. Et cet accord fut mis par écrit, et était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Suhail ibn Amr et Abu Sufyan ibn Harb, qui furent tous les deux les mushrikines, parmi les mushrikines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, qui est Amir al-Mu'minin, au moment où Abdullah ibn Abbas raconte l'histoire, Uktub ya Ali, écris ya Ali, ceci est l'accord qui s'est passé entre Muhammad Rasulullah, et à ce moment-là, Suhail ibn Amr l'interrompit et dit, La wallahi, non, par Allah. Nous n'admettons pas que tu es Rasulullah, que tu es le messager d'Allah. Si nous admettions que tu étais le messager d'Allah, que tu es le messager d'Allah, nous ne t'aurions pas combattu. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit, Allahumma, ô Allah, certes tu sais que je suis ton messager. Écris à Ali, ceci est l'accord passé entre Muhammad ibn Abdillah, c'est-à-dire qu'il a effacé le mot Rasulullah, messager d'Allah. Et Abdullah ibn Abbas dit, Fawallahi, par Allah, certes le messager d'Allah est mieux que Ali. Cependant, le fait qu'il ait effacé son titre Rasulullah ne l'a pas fait sortir de la prophétie. Donc ici, Abdullah ibn Abbas a répondu même à leur troisième shubha, et ceci par la sunnah. Et Abdullah ibn Abbas dit à la fin du hadith, de l'histoire, 2000 d'entre eux sont revenus. Ils étaient 6000 au début et seulement 2000 parmi eux sont revenus. Et Cheikh commente en disant que ces 2000 étaient des gens qui étaient sincères et qui pensaient que la vérité était avec les Khawarij. Pourquoi ? Parce que la confusion qui s'était installée à l'époque et les Shubuhat qui étaient apparus à ce moment-là leur ont fait croire que la vérité était avec les Khawarij. Cependant, après que la vérité s'est éclaircie pour eux, Allah leur a voulu du bien et les a guidés au retour. Et Abdullah ibn Abbas dit, 2000 d'entre eux sont revenus, et le reste fut tué dans l'égarement dans lequel ils se trouvaient. Fin de citation de Abdullah ibn Abbas. Cheikh Abdullah al-Bukhari dit, quel est cet égarement duquel Abdullah ibn Abbas parle? C'est l'égarement du Khuruj. Les Khawarij qui étaient sortis contre Amir al-Mu'minin Ali, l'autorité musulmane. Donc ici tu vois qu'Abdullah ibn Abbas juge les Khawarij comme étant des dullal, des égarés. Et également nous avons le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel les Khawarij furent décrits, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kilabun nari, les chiens de l'enfer, sharru qatla tahta adim is-sama, les pires à être tués sur terre. » Et tu vois aussi ici, barakallahu fik, que Abdullah ibn Abbas n'a pas vaincu ces gens par el-hawa et l'ignorance, yani par ses propres opinions et ses propres désirs et l'ignorance, mais il les a vaincus avec l'épée de la sunna et de la science. Ainsi, si tu veux prendre une voie dans laquelle tu seras sauf, prends la voie de ceux qui ont précédé dans cette communauté, les salafs, les prédécesseurs. Car à chaque fois que les cornes de l'innovation sont apparues dans l'histoire de la communauté musulmane, et que l'épée de la sunna fut présente dans cet endroit, l'épée de la sunna s'est dressée contre cette corne et l'a coupée. Pourquoi ? Parce que tu vois que les gens de l'innovation, el-bid'a, sont des gens d'ignorance et de hawa, qui suivent leurs propres opinions et leurs propres désirs. Et la science est l'épée par laquelle cette ignorance est combattue. Cheikh Abdullah hafizahullah ta'ala wa jazahullah khayran s'est arrêté ici. Ainsi nous disons, Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.